physique, Père Philippe, 25 novembre 1983, à Saint-Joseph.
On me pose une petite question auquel je répondrai après. La cause exemplaire n'est-elle pas plutôt de l'ordre du comment cela est fait que de l'ordre de la causalité proprement dite ? Question intéressante et délicate. Alors, je continue, si vous voulez, de reprendre avec vous cette question des interrogations. Et comment ces interrogations nous donnent toute la structure de notre intelligence humaine. Ça a été très peu étudié, ça. Comme toujours, les choses fondamentales sont très peu étudiées. On étudie les conclusions. Mais au fond, les choses fondamentales, on le voit peu. Or, je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, il y a un retour à l'interrogation parce qu'on est fatigué de la dialectique. On en a par-dessus la tête, ceux qui sont intelligents du moins. Alors, ils en ont par-dessus la tête. Ils trouvent que c'est vraiment ce qui met l'intelligence humaine dans une situation où elle est canalisée. C'est une canalisation romaine, hein, la dialectique. Si on est canalisé dans un sens, on ne peut plus bouger. Ça continue. Viaduc de l'intelligence. Alors on peut ajouter toujours, on peut ajouter tout le temps, on peut l'élever toujours plus haut, mais c'est canalisé. Et il n'y a plus l'intelligence dans sa source. Nous devons redécouvrir l'intelligence dans sa source. Or, l'intelligence dans sa source, c'est l'intelligence qui interroge. Parce que l'intelligence qui est proche du réel dans le point de vue de l'expérience, c'est l'intelligence qui colle au réel. Elle n'est pas dans sa source. C'est l'intelligence liée à son conditionnement. C'est pour ça, du reste, que si souvent on n'aime pas beaucoup l'expérience. Parce que ça exige une très grande humilité. C'est la terre qui vient au service de la femme, comme il est dit dans l'Apocalypse. C'est l'humilité de l'intelligence, là. Vous comprenez quand vous partez des idées, mais c'est beaucoup plus riche, partir des idées. Vous partez de quelque chose qui est proprement spirituel. C'est tellement plus riche de partir des idées. Parce que des idées, mais c'est notre intelligence qui donne ce fruit. Tandis que partir de l'expérience, c'est partir d'une intelligence qui mendie. Pas drôle d'être mendiant. C'est une intelligence qui accepte la réalité telle qu'elle est et qui veut l'accepter pleinement et totalement et qui veut se mettre à l'école de la réalité, si petite qu'elle soit. On veut être à l'écoute. On l'écoute, on la voit, on la touche, l'être sauvage qu'on veut découvrir. C'est l'intelligence qui se met tout proche du réel, dans l'expérience. Ce n'est pas l'intelligence dans son originalité propre. C'est l'intelligence dans son conditionnement humble. Elle est liée aux sensations. Tandis qu'au contraire, l'interrogation, c'est l'intelligence qui se dresse elle-même et qui veut regarder la réalité, pénétrer plus avant dans la réalité. Donc, c'est l'intelligence dans ce qu'elle a de plus vital. Je crois que la grande vie de l'intelligence, c'est justement les interrogations. Alors là, vous découvrez la vitalité de l'intelligence qui veut aller plus loin. C'est une intelligence qui ne peut pas rester enfermée dans ce que représentent les ornières. Mais quand on dit, par exemple, que l'expérience est un a priori, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puisque nous ne voulons pas d'a priori, hein, en philosophie. Nous voulons chasser tous les a priori. Et il faut chasser tous les a priori. Alors comment pouvons-nous dire que l'expérience est un a priori? Ça, ce serait très intéressant de bien étudier ça. Comment pouvons-nous dire que l'expérience est un a priori? C'est un a priori en ce sens que pour notre intelligence, c'est pareil. C'est accepter le conditionnement d'une intelligence liée au sens. pouvons pas nier que nous avons des sensations. Et nous ne pouvons pas nier que ces sensations nous donnent le contact avec des réalités extérieures à nous, qui ne sont pas nôtres. Notre intelligence a une autonomie fondamentale. Et l'autonomie fondamentale de notre intelligence, elle a toujours la tentation de se vouloir absolu. Alors on aime mieux regarder le fruit de l'intelligence que ce qui est au point de départ de l'intelligence. Vous voyez, ce serait très intéressant à bien saisir cela. L'intelligence liée aux sensations, l'intelligence qui saisit son fruit. Le fruit de l'intelligence, c'est notre langage. Alors que la réalité physique, ce n'est pas du tout le fruit de l'intelligence. C'est l'intelligence liée aux sensations. Alors vous comprenez, pour l'intelligence comme telle, pour l'intelligence capable d'être séparée, elle aime mieux regarder son fruit que de regarder sa mendicité. C'est curieux, les deux aspects hein, qu'on retrouverait, on pourrait faire le mythe de la naissance de l'intelligence, hein, si on était platonicien, le mythe de la naissance de l'intelligence. Elle est mendiante, l'intelligence, elle est crasseuse quand elle est mendiante. Toujours les mendiants sont crasseux, autrement ils ne seraient pas mendiants, n'est-ce pas? Alors, ils n'ont pas la douche tous les matins, les mendiants, c'est impossible, donc ils sont crasseux. Et alors, c'est l'intelligence crasseuse avec les sensations. Avec le toucher, elle touche les réalités qui sont pas belles, quoi, les réalités sensibles. Elle touche le plancher habituel qui est sale, qui est poussiéreux. C'est l'intelligence là qui peine, vous voyez, qui est toute proche de ces réalités physiques, alors qu'elle a la noblesse de l'esprit. La noblesse de l'esprit, alors vous allez vous mettre lié aux sensations, mais c'est quand même effrayant de faire que cette noblesse de l'esprit va être, c'est une intelligence bâtarde liée aux sensations. Vous voyez, c'est une intelligence qui vraiment, il faut faire ressortir ça, parce que nous portons ça. Nous portons ça plus ou moins, parce qu'on est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de Descartes, de Kant, et de cette noblesse de l'intelligence qui veut la certitude et qui cherche la certitude. Or, justement, quand vous vous liez aux réalités physiques, vous vous liez à la contingence des réalités physiques. C'est la contingence, c'est le pantareil, hein, c'est le pantareil d'Héraclite. Alors, vous liez à ça, vous liez à cette contingence, mais ce n'est pas du tout noble pour l'intelligence. Vous vous liez à des contingences, aux deux. Or, l'intelligence, elle a une noblesse. Elle a sa noblesse comparativement à ce devenir. Alors, est-ce que nous devons faire ça? Est-ce que ce n'est pas un a priori, tout simplement, que si vous regardez attentivement, votre intelligence, elle naît à partir de ces idées. C'est la plus noble idée. Et l'idée, je la saisis dans le langage. Là, c'est le fruit. Et donc, c'est la surabondance. Vous voyez, la pénurie et la surabondance, pénia et poros, du côté de la naissance de l'intelligence. Et c'est vrai qu'il y a les deux. Je ne peux pas nier que le langage est bien plus riche que l'expérience, au point de vue richesse. Parce que le langage, c'est moi. C'est moi qui parle. C'est extraordinaire, quand même. Et je peux parler avec surabondance, je peux parler en inondant le parcours de ma parole, tu vois, et tout le monde est inondé de cela. Alors vous voyez, c'est le langage, c'est la richesse, c'est la surabondance, et c'est une intelligence qui, dans sa noblesse, a cette possibilité de dominer. Elle est libre dans sa parole, elle a une liberté. Alors elle veut que sa parole soit parfaitement construite, soit d'une objectivité parfaite, et qu'elle soit vraiment un fruit parfait. Alors, la grande tentation, c'est qu'il faut bien le reconnaître, ça. La grande tentation, c'est de dire non, c'est le langage ou c'est l'idée. Ce qui revient à vos problèmes. Hein. Parce que c'est très vrai que les idées sont présentes dans le langage. c'est l'incarnation des idées, le langage. Alors, comme le langage, c'est l'incarnation des idées, on saisit à travers le langage les idées et on saisit le fruit de l'intelligence. Tandis que là, vous saisissez une source cachée. Une source cachée qui n'est pas très propre. Le purisme. Le purisme de la noblesse de l'intelligence. On aime mieux cette espèce de purisme extraordinaire que d'accepter d'avoir les habits du mendiant. Par les sensations, nous sommes avec les rats, les broutes, nous sommes avec les araignées, nous sommes avec les souris, nous sommes avec tous ces animaux qui grouillent. Parce que c'est ça le point de vue de la sensation. On a quelque chose de commun par les sensations, on a quelque chose de commun avec l'animal. C'est pas noble. Alors pourquoi vouloir vous lier avec l'animal alors que vous avez la noblesse de l'intelligence? Et que cette noblesse de l'intelligence, une fois que vous l'avez saisie, mais restez dans cette noblesse de l'intelligence. Alors pourquoi revenir tout le temps à cette mendicité? On comprend cette tentation, c'est très important de la comprendre, vous voyez. C'est très, très important de la saisir. De saisir qu'en effet, c'est vrai. Si j'opte pour la richesse, Descartes a opté pour la richesse. C'est dans ça qu'il est un bourgeois riche. Tandis que le noble qui accepte la pauvreté du haillon, il accepte la sensation. Il revient toujours à cela. Il accepte cette mendicité de l'intelligence qui se fait petite, souple, pauvre, accueillante. L'intelligence n'est pas accueillante quand elle parle. Ah non, on n'est pas accueillant quand on parle, hein, parce qu'on n'écoute pas l'autre. Et plus l'autre veut parler, plus vous parlez, pour surtout garder la parole, et donc pas l'écouter. Donc vous ne l'écoutez pas. Alors c'est très curieux de saisir qu'est-ce que c'est que l'a priori. Vous voyez, ce serait une question intéressante à se poser. Comment pouvons-nous dire, quand vous êtes du côté de la noblesse de l'intelligence, dire l'intelligence est un a priori? Et comment, quand vous acceptez la fragilité de l'expérience et le haillon de l'expérience, hein, et ça, François, du côté de l'intelligence, hein, c'est le haillon de l'intelligence, c'est la sensation. Et puis alors, on crée la noblesse de l'intelligence, c'est tout le néoplatonisme. C'est une noblesse extraordinaire, le néoplatonisme. Comparativement à cette pauvreté de l'intelligence liée aux sensations. Alors, quand vous êtes lié aux sensations, vous dites, ah, attention. Le fruit de l'intelligence, ce n'est pas premier. Donc vous ne pouvez pas commencer par ça. Il faut aller plus loin. Il faut découvrir cette source souterraine. C'est la source souterraine, ça. Les réalités que j'expérimente. Toutes les réalités et qui m'enrichissent. Alors, ayez ce petit chêne, vous voyez. Je vous le donne parce que c'est un beau rêve. Hein, c'est un beau rêve, ça. C'est un magnifique dialogue platonicien pour voir le point de départ de l'intelligence. Alors, faites ça, ce serait très beau, ce serait très beau de voir les deux, que l'intelligence naît de la sensation, c'est vrai, elle naît de la sensation, elle prend son bien de la sensation, ou l'intelligence au contraire, qui montre toute sa richesse, toute sa splendeur, et ça peut aller très loin ça, parce que la rhétorique est là, et la rhétorique peut faire un langage merveilleux, extraordinaire, la logique nous donne un langage très précis. Moi, je veux la précision, je veux l'objectivité pure. Et vous avez les deux dans ce langage. Vous avez le langage rhétorique rempli d'affectivité, qui est tout le langage symbolique. Et puis vous avez la rigueur du langage, la rigueur de la logique. Et tout ça, c'est dans le langage. Et c'est le fruit de l'intelligence. Alors c'est intéressant de voir cela. Parce que nous devons tout le temps revenir à cela. Le philosophe, c'est celui qui revient tout le temps à la source. C'est ça, le philosophe. Il revient tout le temps à la source. Parce que le philosophe qui regarde les conséquences, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord. C'est plus facile de regarder les conséquences. Revenir à la source, vous pouvez me dire, c'est pré-philosophique. Ça m'est égal. C'est pré-philosophique, mais c'est fondamental. Et c'est quelque chose qu'on doit revenir tout le temps. Essayer de comprendre d'où ça vient. Bon, une fois que j'ai... Alors, évidemment, on opte dans un sens. Hein. Je ne peux pas garder toujours les deux. Quoique ce serait très intéressant. On aurait une espèce de philosophie, vous voyez. des deux côtés, comment le développement de l'idée, et comment le développement, parce qu'au fond, il y a toujours un peu les deux. Et vous savez très bien qu'il y a toujours les deux. Votre intelligence, vous la saisissez du côté de sa fécondité, du côté de son fruit, et l'intelligence, vous la saisissez du côté de sa mendicité. Et vous pouvez dire que tout le temps, vous avez ces deux aspects. Mais vous mettez un ordre. Qu'est-ce qui est premier? Génétiquement ou selon l'ordre de perfection? Premier dans l'ordre génétique, c'est la mendicité. C'est la noblesse de la mendicité. Il est premier dans l'ordre génétique. Il est dans cette attitude de réceptivité. Et le premier dans l'ordre de perfection, dans l'ordre de noblesse, alors c'est le fruit, c'est le langage. On comprend très bien qu'aujourd'hui, vous voyez, la philosophie d'aujourd'hui sur la philosophie du langage. On comprend très bien. C'est avec le point de vue économique. C'est vrai, c'est assez parallèle. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce qu'alors on retrouve une harmonie entre la culture d'aujourd'hui et la philosophie d'aujourd'hui. Si la philosophie doit être la philosophie de la culture, ça ne peut être que la philosophie du langage. Si la philosophie doit être la philosophie de l'homme, alors c'est la sensation. C'est curieux ça, et c'est intéressant à saisir, parce que c'est quand même important. Il ne faut pas que l'un chasse l'autre. Il faut que nous puissions, il faut pouvoir montrer que de fait, ce que notre époque nous apporte, et en même temps ce qu'elle risque toujours, ne revenant pas à la source, de s'épuiser. Parce qu'on se rajeunit en redevenant mendiant. C'est vrai, ça. À tous les points de vue, le mendiant n'a pas d'âge. Tandis que celui qui est opulent, il a beaucoup plus un âge. Parce qu'il est lié à la culture. La mendicité n'est pas liée à la culture. Alors, toute la question est de savoir si la philosophie de la culture ou la philosophie de l'homme. Au fond, c'est la grande question. Est-ce que la philosophie de la culture... Aristote s'était posé la question. Il le dit. Il dit que d'une certaine manière, la philosophie de la culture. Et pourtant, il va plus loin, il dit non, c'est la philosophie de la réalité. Alors, il faut se poser la question et essayer d'entrer dans ce point de vue-là. Vous voyez, en gardant, si on est très, très orienté vers la philosophie de la culture, mais gardons ce lien, c'est important. Si on est très orienté vers la philosophie de la réalité, bon, creusons sans exclure l'autre. Parce qu'il y a les deux aspects de l'intelligence qui est lié aux sensations. C'est l'état de mon intelligence. Pourtant, ce n'est pas un a priori, c'est constater le fait. Quand je constate le fait, mon intelligence est liée aux sensations. Alors comment est-elle liée? Alors à ce moment-là, on pourra discuter. Mais elle est liée aux sensations. C'est un fait. Évidemment, moi j'aurais peut-être mieux aimé, au point de vue de l'intelligence, ne pas être lié aux sensations. Avoir un titre de noblesse plus grand. Et ce titre de noblesse plus grand, c'est d'être séparé complètement des sensations. Et d'être lié par rapport aux sensations. C'est très bien ça. Et vous risquez de planer. Ou vous risquez au bout d'un certain temps d'oublier la source cachée par où tout se rajeunit. Si vous ne prenez que le fruit, c'est très très bien, mais le fruit demande un enracinement. La fécondité réclame un enracinement. Et s'il n'y a plus d'enracinement, il ne peut plus y avoir de fécondité. Alors au bout d'un certain temps, vous aurez une superculture qui n'a plus aucun enracinement. C'est le danger de notre monde d'aujourd'hui. C'est le danger d'être une culture qui n'a plus d'enracinement, qui ne s'enracine plus, donc qui ne peut plus se rajeunir, et qui ne se rajeunira que dialectiquement. Or, le rajeunissement dialectique n'est pas un rajeunissement, parce que ce n'est pas revenir à la source. Vous voyez, c'est tous ces problèmes qui sont sous-jacents. Alors, il faut les comprendre dans toute leur force, et comprendre que c'est vrai, c'est un problème sur lequel on doit revenir tout le temps. C'est notre problème d'aujourd'hui, ça. C'est notre problème d'aujourd'hui. Et qui prend une acuité très forte aujourd'hui. Ceci pour vous rappeler la mendicité de l'intelligence. Eh bien, l'intelligence, quand elle interroge, oublie sa mendicité. C'est vrai. Quand l'intelligence interroge, l'intelligence se dresse pour elle-même et pour essayer de comprendre la réalité. Alors, c'est la structure de l'intelligence. C'est ça que je voudrais que vous saisissiez, la structure du nous. C'est intéressant de voir comment le nous va montrer ses appétits. Les appétits du nous. Et avant tout, et parmi ces appétits, il y en a un qui veut englober. Il y a un appétit de synthèse. Il y a un appétit d'analyse, il y a un appétit de synthèse. Alors l'appétit d'englobant, vous voyez, c'est l'appétit de synthèse, c'est le premier. Et l'appétit d'analyse, c'est au contraire, c'est le flèche. C'est l'intelligence qui cherche. L'intelligence qui cherche à travers ses interrogations et qui veut découvrir à travers ses interrogations. Alors regardons ces interrogations pour saisir ces orientations profondes de l'intelligence. Il faut brûler les chaînes présentées, tout de suite. Ce sont des chaînes, c'est très bien, mais il faut les brûler tout de suite après. Parce que l'intelligence n'a pas de chaîne, elle vit. Mais nous avons besoin de nos petits chaînes. Petite caricature pour que nous comprenions mieux, pour que nous saisissions mieux. Alors, l'intelligence dans sa recherche, qu'est-ce ? Le thiesti. Le thiesti grec. L'intelligence qui veut saisir ce qu'il y a de plus déterminé dans la réalité déterminée. Saisir ce qu'il y a de radical dans l'ordre de la détermination. Donc dans l'ordre de la forme. Le qu'est-ce, c'est ça ? L'intelligence qui cherche la forme. Mais qui cherche la forme dans ce qu'elle a de radical, la métaforme ou la ourforme, c'est encore mieux. C'est la forme dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental. C'est la forme radicale. La forme dans ce qu'elle a de premier, dans l'ordre de la détermination, qu'est-ce ? Réfléchissez quand vous posez qu'est-ce que c'est que cela ? C'est cet appétit de l'intelligence qui veut saisir la réalité dans ce qu'elle a de tout à fait propre, dans ce qu'elle a de principal, dans ce qu'elle a de plus déterminé. Toutes les réalités que vous saisissez impliquent une détermination, impliquent une forme. Alors, je ne veux pas m'arrêter à la forme extérieure, aux apparences. Je veux aller plus loin. Je veux saisir la source de toute détermination. Je veux saisir la forme des formes, si vous voulez. Saisir vraiment ce qui permet de découvrir ce qui est fondamental dans le réel, dans ce qui est. Puis, en quoi ? Alors, ça, c'est déjà très différent. En quoi ? C'est la réalité, non pas dans sa détermination, j'allais dire la réalité dans son indétermination. Puisque toutes les réalités que j'expérimente impliquent un pôle de détermination et un pôle d'indétermination, puisqu'elles sont dans le devenir. Tout ce que je saisis implique un devenir. Donc il y a une indétermination. Saisir la réalité dans son indétermination, dans ce qu'elle a de capable de changement. Au fond, ce qui rend raison de son mouvement, de son changement. Alors, toutes les réalités que j'expérimente impliquent un devenir. Je les expérimente aujourd'hui comme ça, demain elles seront autrement. Pantareil. Ça coule tout le temps. Alors cherchez le pantareil. Hein. Comment se fait-il que le fleuve coule tout le temps ? Comment se fait-il que la réalité change tout le temps ? Comment se fait-il qu'il y a cette instabilité, ce mouvement radical dans les choses ? L'indétermination. Qu'est-ce qu'il y a de radical dans l'indétermination ? Qu'est-ce qui commande la détermination ? D'où ? Alors ça, c'est l'origine. Toutes les réalités, puisqu'elles deviennent, impliquent une origine. Je veux remonter à la source. Je veux découvrir l'origine. C'est difficile, l'origine. C'est très curieux. Ça aussi, c'est un appétit naturel de l'intelligence. De remonter, remonter. Vous voyez, le côté historique de l'intelligence, hein, qui veut saisir l'origine, qui veut saisir les événements progressifs dans lesquels se fait un développement, donc l'origine, et puis plus profondément encore, en vue de quoi? Alors il veut saisir la fin, en vue de quoi? Ce qui termine, l'achèvement. Toute réalité demande un achèvement. Toute réalité est ordonnée vers quelque chose qui l'achèvera. Il y a quelque chose dans la réalité qui va vers quelque chose de plus. Il y a une tendance vers quelque chose qui achève, qui termine, en vue de la réalité. Et alors ici, sur le modèle de quoi? C'est évident que sur le modèle de quoi est plus proche du comment. Et proche du comment, c'est très vrai. Sur le modèle, mais c'est quand même pas le comment. On va essayer de saisir ça. Sur le modèle de quoi? Alors ça, c'est le point de vue de l'exemplaire, le modèle. Le modèle permet de réaliser quelque chose. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez, il est du côté du comment. Le modèle donne un raccourci, une maquette. J'ai une maquette. Pour ça. Les gens ils comprennent, ils comprennent ça tout de suite. Hein. La petite maquette, quand on voit ça. Toujours, je voyais Paris, c'est dans un coin de presse prod. C'est les coins du 14e et du 15e, c'est toujours très amusant. Et alors, vous voyez un architecte qui avait vendu toutes les petites maisons qu'il avait faites. Hein. C'était très très joli de voir toutes ces petites maisons qu'il avait faites dans toute sa carrière. C'était pas mal. On est regardé le modèle. Ça attire, c'est évident. Ils ont été architectes. Très bien. Tandis que ça, si vous voyez ce modèle, c'est intéressant. Ça vous capte tout de suite. Ça, c'est la cause exemplaire. Alors, ce n'est pas le comment. Parce que c'est du côté de la manifestation de ce que représente une forme parfaitement réalisée. Le comment, alors c'est encore autre chose comme interrogation. Je laisse de côté le comment pour le moment. Et nous regardons ces cinq manières dont l'intelligence se dresse. Cinq manières dont l'intelligence se dresse. Elle a cinq manières de regarder la réalité. C'est quand même très étonnant, ça. Et je trouve ça très beau, les interrogations de l'intelligence. Vous savez ce que dit Platon? Parce que Platon donne toujours des images, à ce point de vue-là, c'est intéressant. Platon dit que c'est le chien de chasse, l'interrogation. Un chien de chasse qui est en face d'un fourré, où il sait que le gibier est là. Il a saisi le gibier, personne ne le voit, mais le chien de chasse, il a un flair. Alors, il est en attitude de celui qui est en face du gibier qui va faire lever. C'est beau comme image. C'est ça l'intelligence. L'intelligence en quête du gibier. Donc, en avidité de saisir ce qui est son bien, ce qu'elle est capable de saisir. Alors, ça, c'est l'intelligence en arrêt. Un chien en arrêt. L'intelligence a cinq manières d'être en arrêt. Elle est subtile. C'est un chien bien dressé. Un chien de chasse merveilleux. Elle a cinq modalités d'être en arrêt. Alors je veux bien que le cinquième, c'est-à-dire sur le modèle, est assez particulier. Il y a quelque chose déjà un peu synthétique. C'est pour ça que c'est peut-être l'intermédiaire entre les quatre qui sont vraiment analytiques. Et puis, le point de vue de la synthèse. Ça, j'accepte très assez bien qu'il y a du côté du cinquième, comme presque toujours, il y a un petit changement, il y a le débrayage, si vous voulez. Alors avant de passer au comment, alors il y a le cinquième. Le cinquième, c'est sur le modèle de quoi? Mais ce n'est pas le comment. c'est autre chose. C'est une projection du commun. C'est une projection, mais une projection qui n'est pas le commun. Vous projetez le modèle. Vous projetez ce que vous avez, la maquette. Ça dit bien le modèle, ça dit bien l'exemplaire. C'est, vous projetez ça. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin dans l'ordre du facere. Vous n'avez pas besoin dans l'ordre de la connaissance purement spéculative. Dans l'ordre de la connaissance purement spéculative, vous n'avez pas besoin. Mais dans la mesure où la connaissance spéculative est liée au facere, dans la mesure où, de fait, dans votre enquête, vous avez la créativité qui vous permet de découvrir ce qui est au-delà de la créativité, alors vous avez besoin de la cause exemplaire. Mais si la créativité est première et remplace toutes les autres causalités, alors le modèle devient quelque chose de primordial. Et on découvre ça très très fort dans notre vie, hein, dans la mesure où nous sommes architectes, c'est-à-dire dans la mesure où nous construisons. Et c'est vrai, on construit très vite, hein. On aime bien construire, on aime bien, parce que dès que vous construisez, vous faites quand même une petite synthèse. Et la petite synthèse est du modèle. Ce n'est pas le comment, autre chose. On verra la différence entre les deux. Alors, la grosse question, c'est d'où naît ces plis d'intelligence, ces interrogations d'intelligence. D'où ça naît, d'où ça vient? Parce que c'est la structure d'une intelligence en quête de connaissance. C'est la structure d'une intelligence qui recherche la vérité, qui recherche son bien. Alors, d'où vient ces plis? Est-ce que ces plis sont a priori? C'est la grande question. Est-ce que ces interrogations sont des a priori? Comme si l'intelligence, dès le berceau, avait ses a priori, elle interroge. Mon intelligence est une intelligence faite pour interroger. Le savant interroge, le philosophe interroge, l'enfant interroge. Et plus on est conscient de son imperfection intellectuelle, plus on interroge. On a une avidité de progrès, une avidité d'aller toujours plus loin. Tandis que quand on est gavé, intellectuellement parlant, quand on est gavé, on interroge. Qui avait le petit lapin. Il est content. Il n'a plus qu'à le digérer. Alors il n'interroge plus. C'est curieux ça. Une intelligence fatiguée ou une intelligence fatiguée. Une intelligence fatiguée qui est à l'âge de la retraite. Une intelligence qui est la vie montante. Alors une intelligence fatiguée, elle n'interroge plus. Parce qu'elle croit qu'elle connaît tout. Donc elle n'a plus qu'une seule chose à faire, l'inventaire de tout ce qu'elle connaît. Et alors quand elle fait l'inventaire de tout ce qu'elle connaît, elle met des tiroirs avec des clés, mais elle, rien d'autre. C'est de faire l'inventaire. Et on se repose, on voit tout ce qu'on connaît. Une intelligence jeune interroge, cherche. Bon, alors, est-ce que c'est a priori? Non. Je crois que ce sont les plis d'intelligence en fonction de sensations. C'est là on retrouve comment l'intelligence d'abord est liée à l'expérience. Il faut expliquer ces interrogations. Il faut expliquer comment, de fait, mon intelligence interroge de cette manière-là. Même si elle n'emploie pas les quatre, parce que de fait, c'est très rare que vous employiez les quatre. C'est très rare que vous employiez les cinq. Ordinairement, vous employez un ou deux. Mais la véritable intelligence en appétit de découverte prend les quatre grandes interrogations. Eh bien, je crois que ces interrogations, ce sont les plis d'une intelligence liée aux sensations. Parce que la sensation, je vous ai dit tout à l'heure, l'expérience liée aux sensations, nous montre l'état de mendicité de notre intelligence, l'état de réceptivité de notre à la fois on saisit quelque chose et on sait qu'on ne saisit pas tout. C'est le propre du mendiant. Il a quelque chose, mais il veut plus. il met 3 sous dans sa main pour bien montrer qu'on lui a donné de l'argent et que c'est ça qu'il demande, mais il maintient sa main ouverte. Il ne ferme pas sa main sur les 3 sous. Alors, il maintient sa main ouverte. Et bien, notre intelligence, par l'expérience, elle atteint quelque chose du réel, et ce réel, elle ne l'atteint pas pleinement. Alors, il y a cette interrogation. Et l'interrogation exprime ce que l'intelligence n'a pas saisi, mais pourtant, elle a été alertée. C'est curieux, ça. C'est très, très curieux de voir comment naît les interrogations en nous. Ça échappe complètement à notre psychologie. Nous constatons les interrogations, nous constatons cet état d'avidité de l'intelligence, nous constatons, comme diraient les Grecs, le thumos de l'intelligence, ce désir de l'intelligence de saisir et d'aller plus loin. Mais c'est très difficile de voir comment cette intelligence naît à partir de là, ou bien comment ces interrogations naissent à partir de l'expérience. Je crois que nous pouvons, dans une attitude de réflexion critique, nous pouvons très bien saisir comment l'intelligence, par l'expérience, se sert plus de tel ou tel sens. Alors, je ne vais pas faire toute l'enquête avec vous ici, simplement pour orienter un peu cela, voir comment, lorsque nous sommes plus tourné vers la vision. Notre monde d'aujourd'hui est plus un monde de visionnaire. Un des rares sens qui reste, c'est la vision. Dans notre monde d'aujourd'hui, on est alerté. C'est pour ça qu'il y a tellement de paires de lunettes. On est usé dans la vision. Alors, nous sommes des gens qui aimons la vision. On est très éveillés du côté de la vision. Ça me semble très très net. Eh bien, la vision dans l'expérience va mettre dans l'intelligence ce pli fondamental de la détermination. Qu'est-ce ? Il faut connaître la détermination pour la chercher. Eh bien, c'est la vision qui me donne la vision liée à l'intelligence, c'est bien évident. C'est la vision Zeus qui me donne le sens de la détermination. Et ayant le sens de la détermination, je veux aller le plus loin possible dans cette orientation de la détermination. Et la vision oriente mon intelligence vers la détermination. Réfléchissez un peu. Si votre sens de la vue est très développé, si vous êtes particulièrement attentif au sens de la vision, ce que fait la culture d'aujourd'hui, audiovisuel, nous sommes liés à ça. Et puis, regardez les gens qui éditent des revues, ils vous disent toujours, plus il y a de belles photos, plus la rue se vend. Le texte, pas grand important. Mais la vision des choses, on aime ça. Même de regarder ça en revue, c'est vite, vite fait. Regardez les propagandes, hein, c'est extraordinaire. Quand on voit, c'est la vision. On est très, très lié à ça. Eh bien, l'œil, la vision, nous donne le sens des déterminations. La détermination suprême dans l'ordre physique, c'est la lumière. L'œil, c'est le sens de la lumière. Le sens de la lumière, c'est le sens de la détermination. Et on veut saisir, alors, ce qu'est la détermination. Non pas celle qui apparaît, mais celle qui rend raison de l'apparence. La sensation me met en contact immédiatement avec ce qui apparaît, et mon intelligence veut dépasser l'apparence pour saisir ce qui est au-delà de l'apparence. Et c'est cette espèce de lien entre l'intelligence et la sensation est toujours liée à ce qui apparaît. Immédiatement. Et l'intelligence qui veut aller au-delà. Alors, le qu'est-ce, le TST, le qu'est-ce, c'est l'intelligence qui veut aller au-delà de la détermination immédiate. Les déterminations immédiates, elle veut aller au-delà. Elle veut saisir la racine. Puisque toujours l'intelligence, dans son éveil, veut aller au-delà de l'apparence, au-delà des sensations, mais dans l'ordre de la détermination. C'est pour ça que l'interrogation qu'est-ce, c'est vraiment la première idée. Parce que la vision, c'est quand même le sens le plus développé. C'est le sens le plus développé. Surtout dans la culture d'aujourd'hui. Mais la culture grecque aussi. C'est la vision. C'est pour ça qu'on pleure sur celui qui perd la vision qui devient aveugle. Être aveugle montre tout de suite l'importance de la vision. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir comment un aveugle né pose la question du qu'est-ce. Ça, c'est très intéressant, parce que, faisons attention, hein, c'est l'intelligence qui interroge, c'est pas nos sensations. Or, même s'il manque un sens, l'intelligence est présente. Alors, il n'y a pas que la vision qui donne le point de vue de la détermination. Il n'y a pas que la vision. Et c'est pour ça qu'il y a des suppléants que vous trouvez tout de suite chez un aveugle de naissance. Il y aura un toucher particulièrement développé. Et le toucher lui donnera le sens de la détermination. Il aura un odorat ou un ouïe particulièrement développé. Très très curieux, ces suppléances d'un sens par rapport à l'autre. Ce qui est très intéressant du reste à étudier. Parce que ça nous fait bien comprendre comment l'interrogation, c'est le fruit de l'intelligence, c'est pas le fruit de la sensation. Mais la sensation dispose. La sensation dispose. Et l'interrogation, c'est vraiment la structure de l'intelligence qui, elle, cherche son bien fondamental. Alors, en quoi c'est le toucher? Après la vision, c'est le toucher. C'est-à-dire les deux extrêmes de nos sensations. Il faut toujours voir les deux extrêmes, l'un par rapport à l'autre. La vision et le toucher. Le toucher, c'est l'immédiat. La vision, ça peut aller jusque dans les étoiles. C'est extraordinaire de voir une étoile, de voir une galaxie, invraisemblable. Ils sont tellement loin, ils vous les voyez. Puis toucher. On est tellement habitué qu'on ne pense plus à ça, mais c'est quand même invraisemblable. La lumière, c'était saisir la lumière. Ils touchaient. Essayez de toucher la lumière. C'est pas comme ça. C'est pour ça que le toucher est irremplaçable, tandis que la vision peut être remplacée. Le toucher est irremplaçable. Quelqu'un qui n'aurait pas le toucher mourrait. C'est la mort de l'animal quand il n'y a plus de toucher. Tandis que ce n'est pas la mort de l'animal quand il n'y a plus de vision. Il court moins vite. Ça, c'est évident. C'est du côté de la course, vous voyez. Il court moins vite, parce qu'autrement, il se jette sur le mur. Ça c'est sûr, ça. Il est lié beaucoup plus au conditionnement du toucher. Alors c'est la canne qui l'est, prolongement de la main, prolongement du toucher, pour remplacer, pour suppléer. Alors vous avez donc l'intelligence liée au toucher, et l'intelligence liée au toucher interroge en quoi ?